VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiesch, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 25 mars 2016. Au sommaire ce soir...
Grève générale au Tchad pour réclamer la libération des leaders de la société civile en détention depuis plusieurs jours à N'Djamena.
Les travailleurs ont observé cette grève au-delà même des consignes qui sont données. Parce que certains ont refusé même l'instauration des services minimums dans les hôpitaux.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO reprend sa coopération avec l'armée congolaise en attaquant les rebelles ougandais ADF dans l'est du pays.
Le chaos s'installe davantage en Libye, où les autorités de Tripoli ont décrété l'état d'urgence après avoir dit non à l'installation d'un gouvernement d'union nationale.
Les États-Unis éliminent le numéro 2 du groupe État islamique. Nous aurons des réactions.
John Kerry en Belgique, Washington réaffirme son soutien à son allié de l'OTAN et confirme la mort de deux Américains dans les attentats de Bruxelles.
Dans moins de 10 minutes, c'est l'économie, puis les sports, mais d'abord le journal.
Au Tchad, l'initiative engagée par le médiateur national pour la libération des quatre leaders de la société civile détenus à la maison d'arrêt de N'Djamena n'a pas abouti. Ils seront gardés jusqu'à jeudi. Un appel à la grève a été lancé pour exiger leur remise en liberté. On écoute Maître Delphine Djiraïbé, membre du collectif d'avocats défendant les quatre prévenus.
Hier déjà, le procureur avait mis ses prévenus sous dépôt et a fixé l'audience. Donc, juridiquement, je ne sais pas par quelle procédure ils allaient les libérer ainsi. Cela montre que c'est une arrestation politique et qu'une décision politique allait être prise pour les libérer, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde comprend que ça relève de la diversion. Ils voulaient juste obtenir des responsables des associations de la société civile qu'ils lèvent le mot d'ordre de grève qui a été effective aujourd'hui, et une grève cesse qui est annoncée pour lundi, c'est tout ça qui a fait peur, et le pouvoir voulait tout simplement que les sociétés civiles reculent par rapport à tout ça. Mais il était hors de question, selon les responsables de la société civile, qu'ils renoncent à leurs droits constitutionnels, parce que les manifestations prévues étaient prévues pour être pacifiques.
C'était Maître Delphine Djiraïbé, jointe à N'Djamena.
Des hélicoptères d'attaque de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo sont engagés depuis hier contre des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques alliées, ADF. Selon un responsable de la MONUSCO, cette opération matérialise la reprise de la coopération avec les FARDC, l'armée congolaise. Jacques Aristide.
Les hélicoptères de combat onusiens ont infligé des pertes dans les rangs des rebelles ADF, d'après le général Jean Bayeux, commandant adjoint des casques bleus en RD Congo. Quant au lieutenant Marc Azouké des FARDC, il a précisé à l'AFP que ces hélicoptères ont pu attaquer les rebelles ADF dans les profondeurs de Semuliki, un village proche de la frontière avec l'Ouganda au nord-est de Goma. Rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont présents depuis 1995 dans l'Est congolais où ils sont accusés de violations graves des droits de l'homme et de se livrer à un juteux trafic de bois. La MONUSCO avait suspendu son appui au FARDC l'an dernier après que deux généraux congolais avaient été accusés de graves violations des droits de l'homme. Mais la visite à Kinshasa du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en février dernier, a abouti à la reprise de la coopération militaire visant en priorité les rebelles rwandais des FDLR et ceux des ADF.
En République du Congo, plusieurs quartiers des deux principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, restent sous tension suite au déploiement des forces de sécurité. Ce matin, la police a dispersé à Brazzaville une réunion que les 5 candidats de l'opposition devaient tenir avec les journalistes et les autorités ont interdit tout attroupement dans les rues, notamment dans les quartiers contestataires. Nguela Ngoussou fait le point.
Le porte-parole de la police, le colonel Jules Mokalansoumou, a rappelé que le déploiement de forces de sécurité à Brazzaville et à Pointe-Noire ne devait pas apeurer les populations. Ce dispositif sécuritaire, a-t-il souligné, ne sera levé qu'après le verdict du juge constitutionnel sur un éventuel contentieux électoral. Tout attroupement et réunion de nature à troubler l'ordre public et à appeler à l'insurrection armée sont interdits, a dit le colonel Mokalansoumou. Ce matin, une vive tension a été observée dans les quartiers de Filou, la frontière et surtout Diatta, où la police a dispersé une réunion de l'opposition. Quelques militants ont également été arrêtés, la police leur reprochant de répondre à l'appel à la désobéissance civile lancé jeudi par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui conteste les résultats du vote. Ce soir, plusieurs quartiers à Brazzaville et à Pointe-Noire restent sous tension, les policiers et les militaires veillant au moindre trouble à l'ordre public. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Les autorités installées à Tripoli ont décrété aujourd'hui à l'aube l'état d'urgence maximale dans la capitale libyenne, exprimant ainsi leur rejet du projet du gouvernement d'union nationale. Ce dernier était censé s'installer prochainement dans la capitale. John Lyndon.
Les rues de Tripoli étaient cependant calmes en matinée et aucun signe de déploiement des forces de sécurité plus important que d'habitude n'était à signaler, selon un photographe de l'AFP. Le gouvernement d'union nationale, parrainé par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj, a annoncé mardi sa volonté de s'installer à Tripoli dans les tout prochains jours. Il est censé mettre fin au conflit qui oppose les deux gouvernements rivaux, siégeant l'un à Tripoli, appuyé par une coalition de milices, et l'autre dans l'Est, soutenu par le Parlement élu. Mais ces autorités rivales ont rejeté ce troisième gouvernement, aggravant une situation déjà chaotique dans un pays où croît de jour en jour la menace djihadiste. Des informations sur la présence à Tripoli des quatre membres du gouvernement d'Union et l'arrivée dans la nuit de M. Sarraj ont circulé sur les réseaux sociaux, mais aucune confirmation n'était possible dans l'immédiat.
Au Nigeria, une femme kamikaze s'est fait exploser sans faire de victime, mais une autre a été tuée par l'armée aujourd'hui, près de Maïdougouri, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP les milices d'autodéfense, ces volontaires civils qui aident les militaires dans la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram.
L'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blégoudé, jugé pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, affirme dans un livre paru hier avoir été le voisin de cellule à Abidjan d'un djihadiste malien qui l'aurait prévenu des attaques en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, le Soudan du Sud a accusé le Soudan d'avoir bombardé son territoire et de soutenir la rébellion qu'il combat, alors que Khartoum reproche également à son voisin du Sud d'appuyer les insurgés qui s'opposent au régime soudanais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État à la Défense, Ashton Carter, annonce que les États-Unis ont éliminé Abdelrahman al-Kadouli, considéré comme le numéro 2 du groupe État islamique. Washington affirme que cette perte va donner un coup de frein à l'organisation djihadiste. Claire Morin-Gibourg.
Au Pentagone, M. Carter a révélé cette information lors d'une conférence de presse. Nous éliminons systématiquement le cercle des dirigeants de l'EI et l'armée américaine a tué plusieurs terroristes clés de l'EI cette semaine, dont nous pensons Hadji Imam, nom de guerre d'Abdelrahman al-Kadouli. Le secrétaire à la Défense a précisé qu'al-Kadouli était l'un des principaux responsables du groupe État islamique, agissant comme leur ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs. Il a souligné que son élimination donnerait un coup de frein aux capacités de l'EI à conduire des opérations en Irak et en Syrie et à l'étranger. Le ministère américain de la Justice avait offert jusqu'à 7 millions de dollars pour des informations conduisant à cet homme. Cela faisait de lui le plus haut responsable du groupe après le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, qui vaut, lui, 10 millions de dollars.
Double revers en Syrie pour Daesh. Outre la mort d'Abdelrahman al-Kadouli, présenté comme son numéro 2, les djihadistes ont également perdu la citadelle dominant la cité antique de Palmyre. L'agence France-Presse signale que les forces pro-Assad étaient entrées jeudi dans cette ville du centre de la Syrie.
Deux Américains ont été tués mardi dans les attentats de Bruxelles et plusieurs autres sont portés disparus, a indiqué le département d'État. Par ailleurs, le maire de New York, Bill de Blasio, a confirmé qu'un frère et une sœur néerlandais qui habitaient New York ont également été tués.
Trois personnes ont été arrêtées ce vendredi dans plusieurs communes de Bruxelles dans le cadre de l'enquête conduite à la suite de l'attentat déjoué la veille à Argenteuil en France, a annoncé le parquet fédéral belge dans un communiqué. Autre élément de l'enquête, des traces ADN de Najim Lakraoui, l'un des deux kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, ont été retrouvés sur plusieurs objets explosifs ayant servi dans les attentats du 13 novembre à Paris.
Le suspect clé des attentats de Paris, Salah Abdeslam, arrêté le 18 mars à Bruxelles, refuse de coopérer avec les enquêteurs depuis les attentats survenus mardi dans la capitale belge, a indiqué aujourd'hui le ministre de la Justice, Koen Gins.
John Kerry s'est rendu à Bruxelles en soutien à la Belgique en deuil. « Je suis bruxellois », a lancé M. Kerry en français et en flamand lors d'une brève visite de solidarité dans la capitale de la Belgique et de l'Union européenne.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Fabrication de mayonnaise à Abidjan. L'anglo-hollandais Unilever produira bientôt 10 000 tonnes de mayonnaise par an. Une nouvelle usine basée sur son site de Vridi, près du port d'Abidjan, permettra ainsi une augmentation de la production de sa marque locale Calvé, dont l'essentiel des 10 000 tonnes commercialisées jusque-là était importé d'Europe. 6 milliards de francs CFA, soit 9,1 millions d'euros, tel est le coût de l'investissement. La fabrication des sachets de 20 grammes commercialisés à 50 francs CFA fera place à celle de 900 grammes vendus à 2000 francs CFA. Tout comme une ambition du directeur général du groupe Unilever, Paul Polman, la filiale ivoirienne entend assurer 100% de son approvisionnement au niveau local. Pierre précieuse à présent, l'univers très fermé des experts diamantaires est essentiellement dominé par des Occidentaux ou des Indiens. Thelma West est nigériane. Elle est installée à Londres et est l'une des rarissimes africaines dans ce milieu généralement masculin. Sa clientèle est réduite. Suisses, Russes, Français, Ghanéens, Nigérians, femmes au foyer, banquières, hommes d'affaires. Les relations se tissent surtout de bouche à oreille. Sa carrière est d'autant plus surprenante que le Nigeria ne produit pas de diamants. C'est à 23 ans qu'elle monte sa propre structure à Londres. Ses créations sont fabriquées par elle-même et sont garanties à vie. Parmi ses créations les plus ambitieuses, un collier de près de 2 millions de livres. Aujourd'hui, cet entrepreneur de 32 ans, passionné par les petits détails, reçoit dans le bureau de ses sociétés de négoce de diamants et de création joyeuse. Elle mène au Nigeria des actions pour promouvoir l'éducation des jeunes et les motiver à poursuivre leurs rêves.
C'était la Minute Éco, signée Arzuma Compaoré.
Et nous passons tout de suite à la page sport avec Nicolas Pinot ce vendredi. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Suite de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017.
Le Swaziland a été tenu en échec sur son terrain par le Zimbabwe 1-0 ce vendredi à Lobamba. Les deux équipes restent à égalité en tête du groupe L. À suivre ce vendredi, la Tunisie face au Togo dans le groupe A. Dans le groupe C, la Guinée équatoriale en déplacement au Mali. Dans le groupe G, le Nigeria qui accueille l'Égypte. Dans le groupe J, l'Éthiopie en déplacement en Algérie. Et puis la double confrontation dans le groupe I, le Gabon face à la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire sans Yaya Touré face au Soudan. À noter également le match Guinée-Malawi qui se déroule à Conakry.
Et demain aussi, on joue sur le continent.
À suivre, Hervé Renard, qui a déjà gagné deux Coupes d'Afrique des Nations avec deux sélections différentes. Il débute sur le banc du Maroc au Cap-Vert. L'Afrique du Sud, très mal partie dans le groupe M, un point en deux matchs, se déplace chez le leader, le Cameroun. À suivre aussi, dans le groupe B, la RDC accueille l'Angola, le Burkina Faso contre l'Ouganda dans le groupe D, l'île Maurice face au Rwanda, les Seychelles contre le Lesotho. Dans le groupe K, le Burundi face à la Namibie et le Sénégal contre le Niger. À suivre aussi, Mauritanie, Gambie. On rappelle, Chérubin, que les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes et le Gabon en tant que pays organisateur.
Le Gabon, justement, qui a dévoilé la mascotte de la compétition.
Le pays organisateur de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football a dévoilé Samba, la panthère noire, lors d'une cérémonie à Franceville, en présence de nombreuses personnalités du football international. On rappelle que le tournoi sera organisé à Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem du 14 janvier au 5 février 2017.
La NBA, championnat de basket nord-américain, quels sont les derniers résultats?
Cleveland a passé une très mauvaise soirée à New York. Les Cavaliers se sont inclinés 95-104 contre les Brooklyn Nets, tandis que les Knicks de New York ont enfoncé Chicago, victoire 106-94.
Il faut aussi parler du championnat universitaire, Nicolas. C'est un séisme, le tenant du titre éliminé.
Duke, l'université de Caroline du Nord, a été éliminée en huitième de finale du prestigieux championnat universitaire de basket. par l'Université de l'Oregon, 82 à 68. Merci beaucoup.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Dudiech et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, N'Djamena.
Les quatre leaders de la société civile détenus à la maison d'arrêt de N'Djamena y seront maintenus jusqu'à jeudi. La médiation engagée par le médiateur national pour leur mise en liberté a échoué. Les centrales syndicales observent une grève depuis ce matin pour exiger leur libération. On fait le point avec André Kodmajingar.
Cette grève s'est fait sentir beaucoup plus dans les secteurs de l'éducation nationale et de la santé publique. Au ministère de l'éducation nationale, surtout au service du courrier souvent bondé de monde, est désert ce vendredi, sauf au cabinet du ministre et au secrétariat général où quelques agents étaient en poste. Dans les principaux établissements sanitaires de la capitale, la désolation est à son comble. Même le service minimum est assuré à peine. Contre toute attente, un patient rencontré dans le couloir de l'hôpital général de référence nationale a dit qu'il est obligé de revenir un autre jour pour passer les examens de radiologie. Le même constat est fait par Manga Jean Bosco, porte-parole adjoint de la coalition Trous et Trous, qui soutient cette initiative.
Les travailleurs ont observé cette grève au-delà même des consignes qui sont données. Parce que certains ont refusé même l'instauration d'un service minimum dans les hôpitaux. Et les autorités sont obligées de se référer aux responsables pour demander qu'il y ait un peu de flexibilité afin de maintenir les services minimums.
Cette grève a également paralysé l'administration générale malgré la mise en garde du ministre de la fonction publique contre les travailleurs du secteur public. Pour preuve, au trésor public, les responsables utilisent l'argument de la paye des fonctionnaires de l'État pour obliger les agents à venir au travail. Tous les grévistes se retrouvent à la bourse de travail et chacun fait son petit commentaire sur la libération éventuelle des quatre leaders de la société civile détenus à la maison d'arrêt. Kounou Vaima Gamfare est le secrétaire général adjoint de l'UST.
De toutes les manières, c'est un problème de solidarité. À partir de lundi, c'est la grève sèche dans tous les hôpitaux sur l'ensemble du territoire. C'est totalement une provocation. Est-ce qu'une décision d'un ministre de l'Intérieur disant qu'il empêche les manifestations est au-dessus de la loi? Les gens même n'ont même pas encore commencé à marcher et on arrête les gens. Ceux qui ont arrêté la voie endossé la responsabilité.
Malheureusement, la tentative du médiateur national pour cette libération a échoué. Aussitôt, la plateforme Ça suffit improvise une déclaration. Abissati Saleh Alazam est l'un des porte-parole de la dite plateforme.
Les messagers du médiateur nous ont fait savoir que le principe de la libération de nos camarades est acquis, sans toutefois nous préciser si cet acquis est juridique ou bien politique. Nous tenons à affirmer que la libération éventuelle de nos camarades par le régime n'entame en rien notre lutte pour le droit de vivre honnêtement et dignement. Les différentes plateformes annoncent que la levée du mot d'ordre de grève ne sera effective que lorsque nos camarades soient libres de leur mouvement.
André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé l'inculpation pour crime de guerre portée contre un djihadiste malien présumé lié à Al-Qaïda. Il est accusé d'avoir pris part à la destruction de mausolées protégées par l'UNESCO à Tombouctou en 2012. Gabi.
Le procureur de la CPI, il faut le dire, a annoncé qu'Ahmad Al-Faki Al-Maldi, c'est le nom du djihadiste, a l'intention de plaider coupable. Et c'est une première dans l'histoire de la Cour. Analyse du docteur Oumar Keïta, il est délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Il est joint par Nicolas Pinot.
Je ne peux être que content. Et c'est la première fois que la CPI va organiser un procès pour destruction de monuments. Il s'agit surtout, en l'occurrence, les mausolées de Tombouctou qui ont été saccagés à coups de pioche. Hein. Nous avons vu ça en 2012, pendant l'occupation des djihadistes. Il se trouve que ce monsieur est aussi membre de Assardine. Hein. Il y a eu 14 mausolées qui ont été détruites, mais qui ont été réhabilitées par l'UNESCO. Je pense que vous avez vu, en juillet dernier, j'étais moi-même avec la directrice générale, Mme Irina Bokova. On s'est rendu à Tombouctou pour l'inauguration de ces mausolées qui ont été construits. Qui a été réhabilité par l'UNESCO. Les manuscrits, l'UNESCO va conserver et protéger ces manuscrits, puis peut-être les numériser, parce que c'est très important pour l'identité de Tombouctou. de ces populations-là.
Le fait qu'Ahmad Al-Faqih Al-Mardi plaide coupable pour cette destruction, qu'en pensez-vous ?
L'inculpation va être confirmée, ça c'est sûr. Et je pense que s'il plaide, comme vous le venez de dire, coupable, il va sûrement se justifier. Bon, de toute façon, la Cour a des preuves. Tout le monde a vu, les preuves sont là. Hein. On a vu les preuves à la télé, et donc il ne peut pas plaider non coupable.
Le fait que ce djihadiste soit pour le moment le seul à répondre de ses actes devant la justice internationale, est-ce dommageable selon vous ?
Pour le moment, les enquêtes sont en cours. Hein. Et ce qui m'intéresse beaucoup surtout, il faut voir dans ce procès un message qui est pour moi un avertissement. Pour tous les groupes armés qui s'en prennent aux monuments historiques, bon, notamment en Syrie. Hein. D'abord, je salue la libération du site archéologique de Palmyre, ville martyre, qui est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui porte à la fois à la mémoire du peuple syrien et les valeurs de diversité culturelle, de tolérance, d'ouverture, qui ont fait de cette région, je dirais, le berceau de la civilisation. Voilà. Comme vous savez, les mausolées même de Tombouctou, c'est l'identité des gens qui vivent là-bas. Et un assaut dirigé contre la dignité, je dirais l'identité de toute une population et de ses racines religieuses identitaires ne peut être que contre-productive, je dirais.
Docteur Oumar Keïta est délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Aujourd'hui, vendredi, les chrétiens du monde entier commémorent le Vendredi Saint, le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. En République centrafricaine, ce jour est célébré selon la tradition de chaque église. Freeman Sipila.
Vendredi 25 mars, il est 15h ici en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui, l'heure à laquelle le Christ est crucifié selon la tradition chrétienne. Aucune messe dans cette journée réservée exclusivement à la vénération de la croix du Christ dans cette église. À l'intérieur, quelques chrétiens assis sur des bancs font leur prière, mais dans un silence absolu. Le père Mathieu Fabrice Édouard Bondobo, curé de la cathédrale de Bangui, vient de finir sa prière. Il ressent une paix intérieure.
C'est une paix intérieure, mais en plus de cette paix, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse. C'est un mystère qui nous dépasse. Parce que la mort de Jésus, c'est la question de la mort du juste. Lui qui n'a rien fait de mal, mais qui a souffert la passion.
Pour la sœur Jeanne, religieuse catholique, le vendredi est aussi un moment de penser à sa propre vie.
Et cela nous fait penser aussi à notre vie et que chacun devait demander aussi la grâce de mourir en soi-même, à ses péchés, à tout ce qui nous empêche de suivre Dieu comme il faut, afin de ressusciter les jours de Pâques pour une vie nouvelle. C'est un grand jour.
Le Vendredi Saint n'est pas commémoré dans certaines églises comme le font les chrétiens catholiques. Les croyants accordent plus d'importance à la commémoration de la Pâque. C'est ce qu'explique Claire, adepte d'une église baptiste.
On sait que le Christ est crucifié, c'est vrai, mais chez nous, on ne célèbre pas le Vendredi Saint. C'est le dimanche qui est important, le dimanche de Pâques. C'est là où la grande messe se fait.
Chez les néo-apostoliques de Bangui, la commémoration du Vendredi Saint est aussi importante comme chez les catholiques. Lotine se prépare pour une grande messe dans son église.
Je suis de l'église néo-apostolique. Nous aussi, dans notre communauté, nous célébrons également le Vendredi Saint comme l'église catholique. En fait, le Vendredi Saint, c'est le jour où Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors, il est important de célébrer cette journée. Ce jour représente pour nous un moment crucial, quoi. Parce que le Fils de l'homme a donné sa vie à la croix pour nous, les pécheurs, pour nous ressusciter du péché.
Ce 25 mars est un jour tout à fait unique dans l'histoire de l'Église et donc de l'humanité. Le 25 mars, soit 9 mois avant Noël, les catholiques fêtent l'Annonciation, c'est-à-dire la commémoration de l'annonce faite à Marie qu'elle porterait le Sauveur en cette année 2016. Cette fête coïncide avec le Vendredi Saint, au cours duquel l'Église revit la passion et la mort du Christ. Cet événement se reproduira la prochaine fois en 2157. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Et Anna, on termine en Côte d'Ivoire ?
Absolument.
Après l'attaque de la plage de Grand Bassam qui a fait 19 morts, quelle est la réponse des artistes ivoiriens ?
Mes réponses en musique, évidemment, une dizaine d'artistes. Le collectif de Bassam a produit une chanson pour dire ce qu'il pense aux djihadistes et montrer que le pays reste debout. Vous connaissez le titre ?
Oui, c'est « Même pas peur ». Nous n'avons même pas peur. Et Salwa Jafari va nous en parler.
Mambo Bamba, Chico Lacoste.
tel projet, l'idée m'est venue du fait que nous, les Ivoiriens, on n'avait jamais connu ça. Quand ça a eu lieu, j'étais un jour chez moi à la maison, avec un jeune homme de l'attaque. Et moi, je suis un homme du monde culturel. Et ils ont des fusils pour tuer des gens. Nous avons nos micros et nos thèmes. Et je dis, qu'est-ce que je dois faire pour lancer un message pour dire aux gens que nous, les Ivoiriens, c'est vrai qu'on a été touchés, mais on n'est pas tombés. Voilà, et dire à ces djihadistes qu'ils ne nous feront pas peur. Parce que leur objectif, c'est de créer la terreur dans le monde. Cette vidéo, nous sommes allés même la faire sur le lieu où il y a eu le drame, sur la plage de Batam, à l'hôtel où il y a eu la tuerie. Nous sommes allés sur place. Et quand nous sommes allés, il y avait déjà du monde là-bas sur la plage. Et quand nous sommes arrivés avec nos appareils, tout ça, ils étaient tellement en joie. Et que voilà, nous avons fait la fête, nous avons travaillé la vidéo, vous avez vu que les gens ont fait la fête avec nous. Donc ça veut dire que, après quand la vidéo est apparue, le public ivoirien a accepté la vidéo. C'était un choix. Parce que nous, ils ont dit, ben voilà, on ne doit pas avoir peur. L'ivoirien ne doit pas rester planté chez lui. En étant l'ivoirien, nous avons la joie, nous n'allons pas nous laisser atteindre. On va chercher d'abord la musique, qui était une musique d'enfant. Et les artistes, quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ok, nous voici le message que nous lançons à travers la joie, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson? Ils disent d'abord dans la chanson aux djihadistes que l'islam, que nous, certains d'entre nous pratiquons, d'ailleurs moi-même je suis musulman, l'islam n'a jamais dit de tuer son projet parce qu'il n'a pas, pas la même vision que toi. On ne voit rien, restons debout, djihadistes. On n'a même pas peur.
Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On remercie Georges Léonard Sagnot qui a assuré la mise en onde ce soir, assisté de Keith Holmes à la console. Présentation, Anastasie Tudiech et Chérubin, Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on maintient la conversation grâce à Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour notre magazine. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.